Je salue tous ceux que j'ai pas vus en arrivant. Et je vous propose une lecture dans le livre du prophète Daniel, le premier chapitre. Donc le livre du prophète Daniel, le premier chapitre. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabucodonosor, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur lui livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Il les emmena au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est la Mésopotamie. Dans la maison de ses dieux. Et il mit les objets dans le trésor de ses dieux. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires, d'amener quelques Israélites de la descendance royale ou de familles de dignitaires, des garçons sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence, aptes à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on apprendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur fixa pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des hauts fonctionnaires leur imposa des noms, à Daniel celui de Belteshazzar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel décida de ne pas se souiller avec les mets du roi et le vin dont il buvait. Et il supplia le chef des hauts fonctionnaires de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. Le chef des hauts fonctionnaires dit à Daniel: « Je crains mon maître le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi vous trouverait-il moins bonne mine qu'aux autres garçons de votre âge? Vous me feriez risquer ma tête devant le roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des hauts fonctionnaires avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria: « Nous sommes tes serviteurs. Mets-nous, je t'en prie, à l'épreuve pendant 10 jours. Qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre mine et la mine des garçons qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec nous d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les mit à l'épreuve pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint que tous les garçons qui mangeaient les mets du roi. Désormais, l'intendant enlevait les mets et le vin de leur repas et il leur donnait des légumes. Dieu donna à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les rêves. Au terme fixé par le roi pour les lui amener, le chef des hauts fonctionnaires les amena devant Nabucodonosor. Le roi s'entretint avec eux. Parmi eux tous, il ne s'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils se tinrent donc devant le roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les mages et les envoûteurs qui étaient dans tout son royaume. Telle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Voilà, alors je vais essayer de brosser un peu le contexte historique de cette histoire. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais amené une photo. Pourquoi? chose, hein. C'est dû à la luminosité. Mais ce n'est pas grave. En 722 avant Jésus-Christ, à cause de leur péché et notamment de l'idolâtrie, les 10 tribus du royaume du nord d'Israël ont été emmenées en captivité par la grande puissance qui dominait le Moyen-Orient à l'époque, l'Empire assyrien. Et vous avez là l'Empire assyrien. Alors, je ne vois pas bien. Hein. Simplement, vous avez ici la Méditerranée, pour ceux qui arrivent à l'Ouange. Là, vous avez l'Égypte. Là, vous avez la Palestine. Là, donc, ce qui est l'actuel Liban, la Turquie. Et puis, tout ça, c'est l'Irak actuel et l'Iran. Et bien, l'Empire assyrien, c'était tout ce que vous voyez cerné en rouge. Là. Voilà. Et vous voyez que cet empire était immense. Il comprenait l'Irak actuel, une partie de l'Iran probablement, la Syrie actuelle, le Liban, tout Israël et même l'Égypte. Vous voyez ce que c'était que la puissance assyrienne. Et vous reconnaissez là quelques villes, par exemple Ninive, où le prophète Jonas avait été prêché, et Ninive qui s'était repenti de ses péchés, également une grande capitale, Assour, la capitale de cet empire. Donc cet empire gigantesque, très puissant, sous le commandement d'un puissant souverain, je crois que c'est Sargon II, si je me souviens bien, avait annexé complètement toute cette région, y compris le petit royaume de Juda, qui était bien petit à côté de ce grand empire. Et les Assyriens avaient déporté une partie de la population du royaume du Nord, ils les avaient remplacés par des Assyriens. Ce qui fait que ça a donné naissance à la province de Samarie, au nord d'Israël, une province qui, vous savez d'après l'Évangile, était un peu méprisée, même fortement méprisée, par les juifs, les vrais juifs de l'époque, à l'époque du Seigneur Jésus notamment. Hein. Et puis donc, il y avait le royaume du Sud, ici, avec pour capitale Jérusalem, encore appelé royaume de Juda, il a persisté encore un siècle, sous la suzeraineté assyrienne, quand même. Les autorités du pays, le roi et les chefs religieux se sont tout aussi mal comportés que leurs frères du Nord, malgré les appels pressants et répétés des prophètes à la repentance. Et finalement, à l'époque du prophète Jérémie, le châtiment était devenu inéluctable. Et ça a été le message de Jérémie de dire aux Judéens, ses concitoyens, c'est maintenant, c'est trop tard, vous n'êtes pas repentis, il faut vous soumettre à la puissance babylonienne. Parce qu'entre-temps, une province de l'Empire assyrien, par ici, avait pris le pouvoir. C'est la deuxième photo. Parce qu'on est assez plus tard. Voilà. On voit toujours aussi mal. Bon, c'est la même chose. Hein. Vous avez toujours la Méditerranée ici, l'Égypte, enfin, c'est la même carte. Et vous avez cerné en rouge, là, l'Empire dit néo-babylonien. C'était une province de l'Empire assyrien qui est devenue plus puissante que les Assyriens, et qui a pris le pouvoir. Vous voyez, c'est un peu moins grand, notamment, vous n'avez pas l'Égypte, puis ça va un petit peu moins vers le nord aussi, mais quand même, c'était un grand royaume, et en tout cas, ils avaient pris également la Judée. Donc, c'est une province de l'Empire assyrien qui a pris le pouvoir dans toute la région de la Mésopotamie, et qui est devenue le puissant empire dit néo-babylonien. Pourquoi néo-babylonien ? Simplement parce que au 15e siècle avant Jésus-Christ, il y avait déjà eu un empire babylonien, donc c'était le deuxième. Jérémie, lui, a passé son temps à prophétiser la fin du royaume de Juda et son annexion par les Babyloniens. Et il prêchait la soumission aux Babyloniens, car Dieu lui avait clairement révélé que les Babyloniens seraient l'instrument du jugement de son peuple. Et ça l'a fait considérer comme un traître à sa nation, parce qu'en plus, et qu'il lui a valu bien des persécutions de la part de ses compatriotes, d'autant que beaucoup de faux prophètes, il y avait aussi des faux prophètes, annonçait exactement le contraire de Jérémie. Et puis en plus, les conseillers du roi de l'époque, l'ont amené à rechercher plutôt la protection de l'Égypte, l'autre puissance qui existait à cette époque. Et le roi penchait plutôt pour l'Égypte. Alors les Babyloniens sous la conduite du roi Nabucodonosor, dont on a parlé là, remporte en 605 une grande victoire, la victoire de Carchemish, sur les Égyptiens. Ils ont battu les Égyptiens, et notamment le pharaon de l'époque qui s'appelait Nécho. Et ce qui confirmait la justesse des prophéties de Jérémie. Et ils étendent leur domination sur, comme vous le voyez, une grande partie du Moyen-Orient, y compris bien sûr le petit royaume de Juda. Et les armées babyloniennes retournent dans leur pays. Ça se passait dans la deuxième moitié de l'année 605. Il y a quand même eu un siège qui a duré 3 ans. Le roi Joachim, qui était le roi à l'époque, qui s'était soumis, une fois les Babyloniens partis, il croit pouvoir se révolter. Ce qui fait que les Babyloniens reviennent 8 ans plus tard, en 597, et cette fois-ci, alors là, c'est vraiment, ça a été plus sévère, Jérusalem est prise, et Joachim emmené captif à Babylone. Une partie importante de la population est déportée en Babylonie, certainement plusieurs milliers de personnes, essentiellement l'élite du peuple, les intellectuels, les artisans qualifiés. Et Nabucodonosor installe sur le trône de Juda un prince de famille royale et lui donne le nom de Sédécias. Il lui donne son nom pour bien montrer que c'était sa chose, c'était sa propriété. Il l'appelle Sédécias. Et il l'installe sur le trône. Et il retourne chez lui. Sédécias, faible et mal conseillé, et malgré, là encore, les avertissements de Jérémie, qui n'arrêtait pas de l'avertir, se révolte lui aussi contre Nabucodonosor, recherchant toujours l'appui du côté de l'Égypte. Alors les Babyloniens, furieux, reviennent en 587, et alors là, c'est véritablement la destruction totale de la ville, et y compris du temple, qui était vraiment le symbole de la sécurité, si je puis dire, des Israéliens. Ils pensaient que tant que le temple était là, ils risquaient rien. Et il déporte la quasi-totalité de la population en Babylonie. Et la répression a été terrible. Pour vous en donner une petite idée, je vais vous faire une lecture dans le deuxième livre des rois. Au chapitre 24. Je commence au verset 18. Donc, rappelez-vous, c'est Sédécias mis en place par Nabucodonosor qui règne à Jérusalem. Il est dit, Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 11 ans à Jérusalem et il fit ce qui déplaisait au Seigneur exactement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à Jérusalem et en Juda à cause de la colère du Seigneur jusqu'à ce qu'il les rejette loin de lui. Sédécias se rebella contre le roi de Babylone. La 9e année de son règne, le 10e jour du 10e mois, Nabucodonosor, roi de Babylone, attaqua Jérusalem avec toute son armée. Il dressa son camp contre elle et ils bâtirent contre elle un terrassement tout autour. La ville fut en état de siège jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du mois, comme la famine était forte dans la ville, qui avait plus de pain, une brèche fut ouverte, enfin bref, les Judéens se sont rendus. Le roi s'est enfui, je dis un petit peu plus loin, au fin du verset 4, il prit le chemin de la plaine aride, mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et le rattrapa dans la dépression de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils prirent le roi et le firent monter à Ribla, devant le roi de Babylone, donc devant Nabucodonosor. Donc Sédécias comparaît prisonnier devant Nabucodonosor. Là, on prononça contre lui un jugement. Et le jugement a été exécuté immédiatement. Et voilà le jugement. Il y a vraiment de quoi faire dresser les cheveux sur la tête. On égorgea les fils de Sédécias sous ses yeux. Puis le roi de Babylone fit crever les yeux de Sédécias. Il le fit attacher avec des entraves de bronze et l'emmena à Babylone. Voilà. Donc la dernière image qui lui reste à ce pauvre Sédécias, c'est celle de ses fils égorgés devant lui. C'est pour vous donner le contexte. Vous voyez un petit peu qui était Nabucodonosor. On rigolait pas avec lui. Alors donc une question se pose. C'est Daniel, dont on vient de lire le début de l'histoire. Quand est-ce qu'il a été déporté, lui, avec ses 3 compagnons? Eh bien, c'était dans l'année 605, probablement, juste après la victoire babylonienne de Carchémish, donc avant la destruction totale de Jérusalem, bien avant. Nous avons vu que Nabuchodonosor avait imposé sa domination au roi Joachim, mais sans le déposer. Ce dernier s'était soumis assez facilement, bien que certainement à contre-cœur. Et là, Nabuchodonosor a emmené captifs quelques dizaines de Judéens. Des jeunes gens issus de l'aristocratie jérusalémite, dont faisaient partie Daniel et ses compagnons. On sait non pas par la Bible, mais par l'historien juif Flavius Joseph, que Daniel aurait été de lignée royale. Et de la part de Nabuchodonosor, c'était une politique très intelligente d'emmener comme ça quelques jeunes gens, une élite, parce que ces jeunes gens jouaient le rôle d'otages, ce qui permettait à Nabuchodonosor d'espérer que les Judéens allaient se tenir tranquilles. En fait, ça n'a pas marché. Mais surtout, faisant d'une pierre deux coups, il allait les former pour son service, profitant de leur capacité intellectuelle pour les former et les joindre à son corps de hauts fonctionnaires de l'État. D'après les spécialistes, en se basant sur le mot employé pour parler de ces jeunes gens, et d'après le reste de l'histoire de Daniel, qui va servir sous plusieurs monarques, on peut penser que Daniel, au moment de sa déportation, avait la fourchette maximale entre 10 et 20 ans, probablement autour de 15-17 ans. Voilà, donc c'est pour vous tracer un peu le contexte de l'histoire que nous avons lue. Donc vous voyez, c'était quand même pas gai, je pense, hein, pour Daniel et ses compagnons. Ils sont kidnappés, hein, déportés loin de leur famille, par un souverain dont on a vu la cruauté, on peut même dire la barbarie, hein, extrêmement puissant. Voilà, et ils sont emmenés loin de chez eux. Je reprends donc le chapitre. On a vu au verset 2 que le Seigneur livra Joachim, roi de Juda, et une partie des objets de la maison de Dieu. Donc, on voit le Seigneur livra. On a l'impression que c'est Nabuchodonosor qui s'est emparé de la Judée. Non, c'est le Seigneur livra. C'est le jugement de Dieu qui arrive. Il fallait qu'il arrive. Le peuple devait être puni pour ses transgressions. Et c'est donc le Seigneur qui est en contrôle de tout. Et on voit que Nabuchodonosor prend quelques objets de la maison de l'Éternel, de la maison du temple, pour les emmener dans la maison de ses dieux. C'était une pratique courante à l'époque. Quelle que soit leur puissance, les souverains cherchaient à s'adjoindre à la protection de tous les dieux possibles, y compris ceux de leurs ennemis, espérant par là encore plus de succès militaire et de puissance. Et c'est d'ailleurs l'usage profane de ces mêmes objets qui va causer, entre autres, la perte d'un des successeurs de Nabuchodonosor dans les chapitres suivants de l'histoire de Daniel. Dans les versets 3 jusqu'à 7, on voit donc les critères de choix du chef des hauts fonctionnaires de Nabuchodonosor. Des jeunes gens de la descendance royale ou de familles de dignitaires, exclusivement des garçons, sans défaut corporel, beaux, doués de toute sagesse, de connaissance et d'intelligence. Donc une sélection sur des critères humains a priori tout à fait pertinents, en tout cas dans la mentalité de l'époque. Rien n'est laissé au hasard comme vous avez vu dans leur formation, y compris leur régime alimentaire. Ça peut nous faire sourire à l'heure actuelle, mais on faisait très attention à ça. Et quel régime leur proposer ? Eh bien, celui du roi lui-même. Comment rêver mieux ? Alors, à partir du verset 8, on voit qu'il y a un problème qui arrive. C'est que cette alimentation est tout à fait contraire aux règles alimentaires de la loi de Moïse, qui avait cours en Israël, et que, bien sûr, Daniel et ses compagnons tenaient à respecter, par fidélité à leur Dieu. Et ceci malgré le risque qu'ils courent de ce qui peut paraître à nos yeux un simple problème de diététique, mais qui en fait était une insoumission caractérisée à l'autorité de Nabuchodonosor. Susceptible de lourdes conséquences, on voit que le chef des hauts fonctionnaires dit « Mais vous me feriez risquer ma tête simplement si vous refusez de manger ce qu'on vous donne. Hein ?» Alors ce verset 8 est très important dans notre lecture. Daniel décida de ne pas se souiller. Vous avez un gars qui prend une décision. Il prend une décision ferme, au risque de sa propre vie et celle de ses compagnons. Et ses compagnons lui emboîtent le pas, ils sont d'accord avec lui. Et dans les versets 11 à 16, on voit que, pour autant, Daniel n'adopte pas la position du martyr intraitable. Tant pis, je risque ma peau, tant pis si je meurs parce que je ne veux pas manger les mets de la table du roi. Non, il va négocier avec le chef des hauts fonctionnaires. Et il lui propose avec beaucoup d'intelligence un test tout simple, qu'on a vu, sur une durée limitée, 10 jours, c'est pas bien long. Tu nous donnes à manger des légumes et de l'eau à boire, et puis les autres jeunes gens, ils mangeront ce qu'ils voudront, et puis tu verras en fonction de ce que tu constates. Et donc le test, 10 jours seulement, c'est un peu étonnant, mais est parfaitement concluant et convainc tout à fait l'intendant qui, du coup, leur sert ce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient meilleure mine et plus d'embonpoint. Alors ça peut nous paraître étonnant, parce que je ne suis pas sûr que nos canons actuels de la beauté seraient conformes et que l'embonpoint serait un signe de bonne santé, mais à cette époque-là, ça devait l'être. Et on voit que grâce à cette ferme décision qu'a pris Daniel et compris ses compagnons avec lui, au verset 17, Dieu intervient. Il est dit, il donna à ces 4 garçons de la connaissance, du discernement dans tout ce qui concernait les lettres. Vous savez que les Babyloniens étaient réputés pour la richesse de leurs écrits dans de très nombreux domaines, dans les écrits poétiques, dans les écrits scientifiques, etc. Ils étaient vraiment très avancés sur le plan de la civilisation. Et donc, Dieu a donné à ces jeunes gens beaucoup de discernement dans ce qui concernait justement ces lettres. Et de plus, on voit qu'il a donné à Daniel spécialement des facultés surnaturelles. Il expliquait toutes les visions et tous les rêves. Cela peut nous paraître curieux, mais ces facultés étaient très prisées par les souverains de l'époque qui y voyaient des indications données par les dieux pour les aider à gérer les affaires de leur royaume et renforcer leur puissance. Ceci dit, c'est peut-être pas aussi décalé qu'il n'y paraît. Il paraît que même de nos jours, certains politiques en charge des affaires de notre pays, de temps en temps, vont consulter des médiums ou des voyantes pour se faire conseiller également sur la façon de gérer même les affaires du pays. Et donc, à partir du verset 18 à 21, vient le moment pour Daniel et ses compagnons d'être présentés au roi lui-même. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Qui prend la peine de s'entretenir avec chacun d'eux, certainement au milieu d'autres jeunes gens de diverses origines, et qui est bien obligé de constater la supériorité de ces 4 jeunes Hébreux sur tous les autres. Il les trouve 10 fois supérieurs. Alors, je ne sais pas ce que veut dire le chiffre 10 là-dedans, mais franchement mieux, que les autres. Supériorité qui sera confirmée d'ailleurs tout au long du règne de ce souverain. On le voit dans les versets 20-21, tout à fait à la fin. Là, telle fut l'existence de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Parce que l'empire babylonien va trouver sa fin un jour ou l'autre. Et la puissance suivante qui va prendre le commandement de toute cette grande région sera la puissance médo-perse sous le commandement du roi Cyrus. Et ça s'est passé ça en 550, ce qui laisse à penser que ça veut dire qu'à ce moment-là, Daniel avait au moins 60 années, voire même probablement un peu plus. Donc vous voyez, ça a duré longtemps, son service auprès de ce souverain, Nabucodonosor, et de ses descendants. Alors je voudrais juste souligner quelques points de cette histoire. D'abord, la difficulté de la position de ces jeunes gens. Ils sont jeunes, ils ont été kidnappés, enlevés à leur famille, ils se trouvent en pays étranger, sous l'autorité d'un monarque redoutable, qui ne connaît pas le Dieu véritable et ne fait pas grand cas de la vie humaine, comme on l'a vu. Eh bien, tout le secret de la réussite de Daniel et de ses compagnons, et dans cette situation difficile, réside dans son attitude de cœur, qui est soulignée au verset 18, « Il décida de ne pas se souiller ». Il décida de ne pas se souiller. Et on voit dès lors la protection et les bénédictions divines qui arrivent. Il y aura encore des épisodes où Daniel va pouvoir trembler pour sa vie, mais chaque fois, il va être, on peut dire miraculeusement, protégé par Dieu qui est en contrôle de tout. Et donc cette protection, on voit au verset 9, déjà dans notre passage, « Dieu accorda à Daniel la faveur et la compassion du chef des hauts fonctionnaires. » Ce n'était pas obligatoire. Le chef des hauts fonctionnaires, il aurait pu dire « Mais qu'est-ce que c'est que ces misérables judéens qui ne veulent pas manger ce qu'on leur donne, je vais te les mettre, les mettre au pli. » Non. Dieu a donné, a accordé à Daniel la faveur et la compassion de ce fonctionnaire. Et puis au verset 17, là c'est encore, je trouve, plus merveilleux, « Dieu donna à ces quatre garçons de la connaissance, du discernement, et donc à Daniel, ses facultés surnaturelles qui lui permettent de surpasser tous les sages, les devins et les enchanteurs, parce qu'il était capable d'expliquer les songes et les rêves. » En lisant ça, ce qui m'a frappé, c'est de voir ces quelques mots, le problème de la sagesse, la connaissance, le discernement des esprits, on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Regardez, quand on regarde par exemple en 1 Corinthiens 12, il est dit, au sujet des dons spirituels que le Seigneur fait à son Église, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre celle de parler en prophète, et Daniel a vraiment reçu ça, à un autre le discernement des esprits, et on a vu que Dieu leur avait donné une capacité de discernement. Ces dons et d'autres sont actuellement donnés à l'Église, bien sûr, par le Saint-Esprit, mais on voit que déjà, ces jeunes gens, à cette époque, en ont bénéficié dans le contexte très différent de l'Ancienne Alliance, pour être les témoins du Dieu vivant, en milieu étranger et plutôt hostile, en tout cas au début de leur carrière. Il faudra plusieurs autres démonstrations de la puissance du Dieu des cieux pour petit à petit convaincre ce puissant monarque païen qu'il n'y a en réalité qu'un seul Dieu, celui de Daniel. Et on le verra ça d'ailleurs dans les chapitres suivants de Daniel, qu'on ne peut bien sûr pas traiter aujourd'hui. Ce que je voudrais souligner donc, c'est la façon dont Dieu a protégé ces jeunes gens et en a fait ses témoins en milieu hostile à cause de leur intégrité. Voilà. Ils ont décidé, ils sont intègres. Ils ne vont pas composer, quand bien même leur vie est en jeu, ils décident de ne pas se souiller. Ils ont décidé de ne pas se souiller avec ce qui, aux yeux du monde païen de l'époque, semblait être excellent et tout à fait légitime, la nourriture du roi. Eh bien, ils ont décidé pour rester fidèles à leur Dieu, et Dieu les a bénis, leur multipliant la sagesse et les protégeant. Et de même de nos jours, si nous ne sommes pas assaillis de diverses sollicitations, socialement parfaitement légitimes, mais pas forcément conformes à la pensée de Dieu. Et je pense que Daniel est pour nous un exemple extraordinaire, parce qu'on décide de ne pas se souiller. Alors, frères et sœurs, et je le dis pour moi le premier, bien sûr, décidons de ne pas nous souiller avec ce qui ne plaît pas à Dieu. Et quand bien même nous devrons parfois emporter des conséquences fâcheuses, ça peut arriver, il peut y avoir le mépris, il peut y avoir de la persécution, mais il y a de toute façon, là aussi, la bénédiction de Dieu, les dons spéciaux de Dieu en réponse à cette volonté d'être intègre devant lui. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de Daniel.